Bonjour à tous. Fabrice Tini, notre invité de ce jour, a séjourné 17 ans en Inde, en particulier à Bénarès et à Auroville. Il vit aujourd'hui dans la région sédunoise où il donne des cours de développement personnel. Il évoquera ce pays asiatique qui l'a fasciné, puis il nous parlera de ses activités professionnelles. En début d'interview, je lui ai demandé comment s'était déroulée son enfance. Voici sa réponse.
Donc je suis né à Chara, un petit village valaisan, qui fut pour moi, je pense que j'ai eu une enfance très heureuse. Je pense qu'on a la chance, en grandissant en Valais, de grandir dans un pays qui est assez extraordinaire. Et puis j'ai plein de reconnaissance d'être né ici. D'une part, mon père était aussi agriculteur, donc il travaillait, mais à côté on a aussi de la vigne, des abricotiers, des terrains, donc... Je vais aller les mercredis après-midi, les samedis après-midi travailler, ce qui forge le caractère quelque part. Donc ça c'est donc ça c'est quelque chose qui était qui je pense qui m'a marqué et puis qui m'a formé aussi. Et puis il y a un autre aspect qui est pour moi très important, c'est le fait de naître dans un village et dans une grande famille, donc famille Dini à Chara, c'est plein de d'enfants et donc du coup c'est une enfance où on est beaucoup en famille, tout le village est... Et encore maintenant, quand je rentre dans mon village, il y a quelque chose de touchant, je trouve qu'il y a quelque chose de fraternel entre tous ceux que l'on connaît depuis toujours, en fait. Donc je pense que c'était un privilège. Et puis bien sûr, après, les montagnes, la nature. Donc j'ai grandi une enfance heureuse, comme ça, en fait. Ouais.
À quel âge est-ce que vous êtes parti en Inde et combien de temps pensiez-vous rester au départ là-bas?
Alors je suis parti à 20 ans. Je pense que à 20 ans, je me préoccupais pas trop de temps ou je me posais pas trop de questions. Je me suis dit, je vais partir là-bas et puis sans trop savoir. Donc la première fois, je suis parti 4 mois, mais après, ouais.
J'ai fait un aller-retour la première fois.
Voilà, ouais, j'ai fait un aller-retour sur 4 mois et puis, ouais.
Et pourquoi est-ce que vous êtes reparti la deuxième fois? Est-ce que vous aviez un but précis ou nouveau, c'était plutôt pour visiter le pays ou...
Non, alors autant la première fois, c'était un peu, comment on peut dire, destiné que j'y aille. Après, je suis rentré en Suisse et après, je crois que je suis resté 6 mois, une année en Suisse. Et là, j'étais vraiment... il me manquait quelque chose, vraiment il me manquait quelque chose j'avais vraiment un grand besoin de retourner en Inde, donc il y avait une grande aspiration et là c'était vraiment une décision consciente de retourner vivre là-bas en fait. Quelque part.
Qu'est-ce qui au départ vous attirait le plus? C'était le pays en général ou une activité particulière?
Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a touché profondément quand j'étais là-bas, ça répondait à une question qui résonnait en moi depuis très longtemps, depuis l'adolescence. Et puis le fait juste d'arriver en Inde, d'atterrir en Inde, ça a été pour moi une révélation, une expérience assez extraordinaire et qui m'a touché vraiment en profondeur. Et puis, après, j'étais obligé de retourner, d'y retourner en fait, tellement ça me nourrissait. Il y a quelque chose qui me nourrissait en profondeur et que j'avais besoin d'y retourner en fait.
Au total, vous êtes resté environ 17 ans en Inde. Quelles ont été les différentes phases de votre séjour là-bas?
Voilà, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la première où donc j'ai juste fait ce petit voyage de 4 mois ou un peu touristique. Après la deuxième, j'ai eu le privilège d'aller, je dirais, dans l'Inde millénaire quelque part, parce que j'ai habité à Bénarès pendant 2 ans, qui est la plus vieille ville. Avec Jérusalem, c'est la plus vieille ville encore existante. On ne sait pas combien, c'est à 5000 ans, c'est la ville sacrée d'Inde. Et puis à cette époque, j'ai aussi voyagé à travers le nord de l'Inde, dans différents lieux sacrés. Et puis, donc ça, c'est la première période. Et après, durant la deuxième période, là, j'ai habité dans le sud de l'Inde, à Auroville, qui est une communauté internationale, où là, il y a différentes nations qui sont représentées. Et ça, c'était une autre phase vraiment différente.
Lors de cette première phase, donc à Bénarès, quelles ont été les principales activités que vous avez faites? Comment ça s'est déroulé en général?
C'était vraiment un endroit qui me juste d'y penser, je sens encore la chair de poule. C'est vraiment un endroit qui m'a touché en profondeur, qui m'a marqué très fond de moi-même. Et Donc j'ai étudié la musique classique indienne quand je suis arrivé. J'ai étudié la musique classique indienne à l'ancienne, c'est-à-dire que j'avais un maître de musique qu'on appelle un gourou en fait en Inde, mais qui m'enseignait la musique, et puis j'allais tous les matins pratiquer, et puis après je rentrais à la maison, je pratiquais, et là j'ai pratiqué 6-8 heures tous les jours en fait pendant quelques années. Mais derrière l'art en Inde, ou derrière tout ce qu'on apprend, que ce soit la langue ou le yoga, en fait c'est un cheminement spirituel plutôt qui se passe en fait, plutôt que le fait d'apprendre des choses extérieurement, c'est plutôt une approche intérieure qui se fait. Pour moi à Benares, donc il y a vraiment eu une transformation profonde quelque part, puisque c'est, comme je disais avant, c'est une ville qui a 5000 ans ou peut-être plus. C'est la ville sacrée indienne, c'est la ville où les gens viennent mourir, c'est une ville où à tous les 3 mètres, tous les 5 mètres, il y a un temple avec une divinité, et puis on sent une présence. Il y a quelque chose qui est là et qui est d'une puissance extraordinaire. Quoi. N'importe qui va à Benares, soit on adore ou soit on part en courant tellement c'est puissant. En fait. Et le fait d'y habiter 2 ans, pour moi, ça a été vraiment transformateur. Juste pour dire la différence, quand je suis arrivé au début, quand il fait les grosses chaleurs, donc il fait plus de 40 degrés, il n'y a pas de vent, c'est vraiment terrible, il n'y a plus d'étrangers, on était juste quelques-uns à y rester. Et au début, bah, j'allais dans des hôtels de riches pour me baigner dans la piscine ou des trucs comme ça. Quoi. Et après 6 mois d'y habiter là, tout à coup, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et puis j'habitais juste au bord du Gange. Et le Gange, tout à coup, s'est transformé en quelque chose de sacré, une présence sacrée qui était là devant moi. Et alors après, j'allais tous les matins me baigner dans le Gange, même si... C'est vrai que de façon extérieure, on peut se dire c'est sale, ou on peut se dire plein de choses, mais là, c'était, pour moi, c'était un bain de lumière plus qu'autre chose. Et je pense que c'est ça qui m'a touché en profondeur. Il y a quelque chose dans cette ville qui est absolument extraordinaire et que j'ai retrouvé nulle part ailleurs, en fait. Donc,
Et à Auroville, quelles ont été vos activités principales ?
Alors, à Auroville, j'avais plusieurs activités. Une, toujours, c'était donc, ça faisait depuis déjà quelques années que je pratiquais le yoga. Donc j'ai continué à pratiquer le yoga. On peut dire que c'était mon activité principale. Et puis à côté de ça, j'ai commencé à travailler dans l'éducation. Donc je me suis spécialisé dans l'éducation intégrale. Et j'ai eu le privilège de travailler avec plusieurs leaders de l'éducation en Inde. Et avec qui j'ai créé des DVD, des livres. J'ai organisé toutes sortes de...
À l'usage des gens de là-bas, des Indiens, ou à l'usage des Européens?
Alors, aux deux, en fait. Donc, c'est une vision de l'éducation, ça s'appelle l'éducation intégrale.
En fin d'interview, Fabrice Dini nous expliquera ce qu'il entend par éducation intégrale. Dans l'immédiat, il répond à la question suivante. Est-ce qu'à Auroville, on a l'impression d'être en Inde, malgré le fait qu'on y trouve des gens des quatre coins de la planète qui ont un idéal élevé?
En effet, Auroville, c'est un endroit extraordinaire, puisque je pense que c'est seulement l'Inde qui peut se permettre d'offrir un terrain à des gens, à des gens qui sont un peu dans l'utopie, et puis de leur dire, bah, vous faites vos propres règles, vous faites vos propres gouvernements, vous faites vos propres lois, et on vous laisse ce terrain, donc c'est absolument extraordinaire. Après, donc, il y a, je crois qu'il y a 60 ou 70 nationalités qui habitent à Auroville, dont beaucoup de Suisses. Et la majorité, c'est quand même des Indiens. Donc, je crois qu'un tiers, c'est des locaux ou des Indiens. Donc, on reste en Inde. Et bien sûr, partout autour, il y a l'Inde. Il y a le climat indien. Il y a toute la réalité indienne qui est bien présente. Et donc, on reste en Inde. Mais l'Inde a cette particularité parce que c'est tellement immense qu'il y a plein d'endroits complètement différents, comme on est dans un autre pays, quelque part, en fait. Et ça, c'est vraiment la richesse de l'Inde, entre les Himalayas, le désert, entre la jungle, entre tout ça. Donc, Auroville, c'est un de ces autres endroits où il y a plein de gens de toute la planète qui sont venus ensemble pour essayer de créer quelque chose d'autre, essayer de trouver des solutions à toutes nos impossibilités.
Est-ce qu'une ville comme ça est parfois trop idéaliste, ou est-ce que vraiment on a plaisir d'y vivre? Est-ce que les gens sont... C'est une ville très, très intéressante, très vivante?
Alors, c'est absolument passionnant d'y être. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui y vont parce que c'est d'une richesse extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a tous les cours imaginables, il y a tout. On va boire un café quelque part, il y a toujours quelqu'un qui a une vie, qui est passionné, qui va au bout de ses rêves, qui ose des choses que peut-être qu'on n'ose pas toujours. Et donc, il y a ce côté absolument assez passionnant. Après, c'est clair que les idéaux d'Auroville sont impossibles pour l'humanité actuelle. Donc ça, je pense qu'on s'en rend bien compte. Parce que, à nouveau, d'être dans une nouvelle gouvernance, une nouvelle façon de s'occuper de la santé, de l'éducation, c'est des buts très élevés, mais l'homme, il reste l'homme. Et ce n'est pas parce qu'on atterrit à Auroville que tout à coup, on devient des anges merveilleux ou qu'on n'a plus de problèmes. Donc c'est clair qu'Auroville apporte aussi toutes les difficultés, mais ça fait aussi partie du but, parce que c'est seulement en ayant les difficultés présentes qu'on va pouvoir trouver des solutions. Donc, dans certains cas, Auroville a trouvé certaines solutions, et puis dans d'autres cas, on cherche toujours.
Une question plus générale sur l'Inde, est-ce que vous pourriez donner quelques phrases comme ça qui donneraient une impression générale de quelqu'un qui n'y a pas été
Je pense que l'Inde, c'est la spiritualité. Donc, c'est vraiment ça qui transpire à travers ce pays. D'ailleurs, on voit que de nombreuses religions sont nées là-bas. C'est vraiment quelque chose qui est très présent. Et après, c'est sa richesse absolument extraordinaire, puisque, comme on disait avant, il y a plein de pays différents. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est qu'on peut se mettre dehors dans la rue, on s'assied, puis on boit un chai. Et on peut passer toute l'après-midi à regarder. Et moi, des fois, je dis, c'est comme dans Star Wars, c'est une espèce de planète intermédiaire où tous les gens de toute la galaxie, toutes les galaxies, viennent faire leurs achats ou viennent se promener sur cette planète intermédiaire. Et donc, on peut voir tout à coup quelqu'un passe avec un sabre, avec une grande moustache, puis après, quelqu'un qui vient d'une contrée complètement différente ou tout à coup 50 femmes qui passent en sari multicolore. Donc, c'est une richesse de vie qui est absolument extraordinaire. Et après, un autre aspect, c'est que les contraires sont très présents. Donc on peut sentir la plus belle senteur qui existe et être complètement enivré par cette beauté, et puis faire 2 mètres plus loin, et puis, je sais pas, il y a un cadavre presque qui est là, et puis qui est en train de pourrir. Donc en même temps, il y a ces choses qui font partie de l'Inde, et puis qui nous aident justement à transcender toutes ces choses, parce que je pense que ça fait partie aussi de son message quelque part. Donc il y a beaucoup de contrastes et une richesse extraordinaire, et puis une présence de la spiritualité qui est très 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 forte en fait.
Fabrice Dini, mis à part dans la ville d'Auroville, est-ce que vous avez trouvé facile de rentrer en contact avec les Indiens?
C'est une des choses qui m'a choqué en arrivant, parce que tout le monde me disait ouais, ça va être terrible, ça va être horrible, tu vas voir. Et quand je suis arrivé, bon, déjà j'étais complètement épanoui d'y être. Et puis en fait, on peut rencontrer n'importe qui, en tout cas à l'époque c'était comme ça, n'importe qui que je rencontre dans la rue, il allait m'offrir un thé, et si je restais pour boire le thé, il allait m'offrir à manger, et si je restais à manger, il allait m'offrir de dormir dans son lit, et puis lui avec sa femme, il irait dormir par terre. Et ça, de tout le monde. C'était absolument choquant pour moi. Et en fait, ça a été très très dur le retour, en fait, parce que je vivais dans cet endroit où c'est très rapidement, on est très très proche comme ça, et puis les gens sont très très ouverts. Et je me rappelle encore être revenu, et puis même croiser des amis qui me disaient « mais j'ai pas le temps là, maintenant il faut que j'y aille, j'ai pas le temps pour toi ». Alors que n'importe quel inconnu avait du temps pour moi, et puis pouvait s'arrêter instantanément. Donc les gens sont très très présents en fait, comme ça.
Qu'est-ce qui vous a surpris le plus en Inde, dans les modes de vie ou dans l'organisation sociale?
Je pense que c'est le rythme. Le rythme indien est extrêmement paisible et tranquille. Donc c'est comme s'il vivait dans l'éternité, alors que nous on est plutôt dans la course constante. Ils ont le temps pour eux-mêmes, pour ce qui se passe. Et c'est plus important, ils sont très intuitifs. Et c'est plus important pour eux d'honorer l'instant présent que le rendez-vous prochain. Ce qui fait des fois que si on a rendez-vous, c'est difficile. Et puis, mais il y a aussi des avantages à ça, et puis des inconvénients. Mais en tout cas, donc il y a quelque chose au niveau là qui est assez différent de notre mode de fonctionnement en fait. Et puis je pense qu'ils sont beaucoup plus collectifs que nous. Nous, nous sommes plus individualistes. Et, peut-être qu'à l'époque c'était différent ici aussi, quand on habitait famille, 7 enfants, tous ensemble, et on partageait plus de choses. Mais donc là-bas, c'est encore très présent d'être ensemble et de vivre ensemble.
Est-ce qu'en Inde, vous avez été confronté à certains malentendus, à des problèmes de langue ou d'us et coutumes?
Alors oui, quand je suis arrivé là-bas, donc je ne parlais même pas anglais. Donc c'était assez épique. Et je me rappelle encore une fois où j'ai passé 4 heures pour avoir mon billet de train. Et puis j'avais toujours pas mon billet de train, donc je suis reculé dans la gare et j'ai commencé à crier. Ils m'ont ouvert un guichet spécialement pour moi, j'étais tout content, ils m'ont donné le billet. Et ils me disaient tous « waiting list, waiting list, waiting list ». Je disais « mais peu importe ». Donc j'avais mes billets, je suis rentré en fin de journée, toute la journée pour prendre un billet de train, c'était vraiment un peu
épique. Donc vous étiez sur liste d'attente, vous n'étiez pas sûr d'avoir quand même une place, si je comprends bien.
Pour moi, c'était, j'avais mon ticket quoi. Et quand je suis monté dans le train, donc j'ai cherché ma place que je trouvais pas, j'étais avec mon ami. Et là, le contrôleur nous a envoyé ici. Puis pour finir, on n'avait pas de place. Et là, on avait 36 heures de train à faire, on n'avait pas de place. J'avais mon ami qui était malade et qui était très malade. Et là, j'ai appris que waiting list, c'est la liste d'attente. Donc, ça compte pas comme billet. Et donc, c'était une grande aventure. Parce qu'après, justement, on n'avait pas de place. J'avais mon amie. On était obligé de prendre le train puisqu'elle avait un avion à prendre. Donc, c'était assez épique. Et donc, ça, c'est parce que je parlais pas l'anglais. Après, j'ai appris le hindi. Donc, après, c'était facile. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de parler l'hindi parce qu'il suffit de rentrer dans un endroit et puis de dire quelques mots en hindi. Et là, vous êtes leur frère, quoi. Vous êtes leur frère et ils vous accueillent les bras grands ouverts et ça change complètement la dynamique entre les gens, quoi.
Fabrice Digny, après environ 17 ans passés en Inde, pourquoi est-ce que vous êtes revenu en Suisse ?
Eh bien, pour la même raison, je suis parti. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'était comme ça. Ça devait se passer comme ça. Autant je devais y aller, c'était clair et je pense que c'était destiné. Et autant, il y a plein de choses qui se sont finies là-bas. Donc, j'avais créé une école... et que c'était le moment pour moi de faire autre chose. Et dans d'autres domaines, c'était aussi le moment de faire autre chose. J'ai rencontré aussi mon amie Linda, qui était en Suisse. Et là, j'étais en train d'écrire le livre. Alors, peu importe que je sois en Suisse ou en Inde, donc je suis venu en Suisse. Et puis, j'ai beaucoup de plaisir d'être en Suisse. Donc, je suis à la montagne, je fais beaucoup de montagne. Et puis, je fais des choses qui ont du sens pour moi, donc ça va.
Fabrice Digny, vous avez aujourd'hui des activités dans les domaines de l'éducation et du développement personnel. Est-ce que ça a été difficile pour vous de mettre en place toutes ces activités après pas mal d'années passées à l'étranger ?
Alors, je l'ai fait un peu à la Diane, c'est-à-dire un peu en confiance aveugle. Donc, je suis arrivé, j'avais rien prévu de faire, en fait. J'étais en train d'écrire mon livre, donc j'ai écrit mon livre. Et puis, 6 mois après, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait créer une école, Isaline Pillet, qui voulait créer une école sur Sion. Et comme j'avais déjà co-créé une école en Inde, je dis, je veux bien donner un coup de main, puisque j'ai déjà...
Donc, en deux mots, c'est une école en plein air pour les enfants, pour résumer.
Oui, alors c'est une école qui est sur Sion pour les 2 premières années, pour l'instant, donc ancienne enfantine. Et on utilise en partie la pédagogie par la nature, donc on est plus souvent dehors, même si on a une pièce dans laquelle 1/3 du temps on passe à l'intérieur et 2/3 on passe à l'extérieur. Donc ça, c'est une nouvelle école qui est... On finit la première année, en fait. Ouais. Et donc ça, ça a arrivé, ça m'a un peu arrivé dessus, en fait, quelque part. Et puis là, j'ai aussi découvert la pleine conscience, et puis j'ai commencé à donner des cours assez rapidement, puisque ça fait maintenant plus de 20 ans que je pratique quotidiennement la méditation et le yoga et certaines choses qui sont reliées à ces pratiques. Donc c'était pour moi quelque part assez naturel de rentrer là-dedans, et puis donc j'ai fait ma formation pour pouvoir l'enseigner maintenant aux adultes et aux enfants aussi, en fait.
Est-ce que vous avez senti du scepticisme parmi les gens parce que vous veniez d'un pays lointain et que vous y êtes resté longtemps ou pas du tout?
Non, alors je pense qu'il y a eu une grande évolution parce que quand je rentrais au début, si on disait le mot yoga, tout le monde partait en courant de peur, qu'est-ce que c'est cette chose étrange? Et maintenant on peut faire du yoga à Fuyi, à Sayong, à Chara, à Arba, à Sion, il y a plusieurs salles. Donc c'est devenu commun et je pense qu'aussi la méditation pleine conscience, par exemple, est en train de se. Donc ça a amené dans les hôpitaux, il y a plus 300, 400 hôpitaux, c'est fait au CHUV, au HUG, ça rentre dans les entreprises, même chez Swisscom, dans les grandes entreprises. Il y a même chez Apple, il y a une salle qui est dédiée à la pratique de la pleine conscience. Et pendant qu'on travaille, on peut aller faire sa pratique et revenir et on est payé tout le long, en fait. Et aussi suite à toutes les études qui montrent les bienfaits de ces pratiques. Je pense que les gens maintenant sont plutôt intéressés. Donc, autant au départ, genre, plutôt. D'ailleurs, j'en parlais pas, toutes ces choses, je ne disais pas yoga, toutes ces choses pour pas. Et mon but, c'est de convertir personne, de toute façon. J'ai aucune ambition par rapport à ça. Mais maintenant, les gens sont plutôt intéressés. Ah, comment c'est? Ah, ça m'intéresse. Ah, peut-être je le ferai un jour. Donc, il y a vraiment un changement, je trouve. Qui est vraiment positif d'ailleurs, parce que je pense qu'il faut être ouvert aux choses, il faut garder notre capacité de discernement et voir ce qui correspond pas à notre culture ou à notre nature. Je pense pas que ça correspond peut-être pas à tout le monde, mais en même temps, il faut être ouvert aux choses qui sont là en fait, et puis qui peuvent nous faire du bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi. Il faut savoir qu'en Suisse, une personne sur trois active et proche du burn-out. Alors c'est sûr, on peut prendre des médicaments, on peut faire toutes sortes de choses comme ça, mais par exemple la pratique de la pleine conscience, ben, on ne prend pas de médicaments et puis on apprend à mieux s'occuper de soi-même, à se redonner du temps. Donc je pense que c'est tout bénéfice pour nous-mêmes, mais aussi pour les gens avec qui on habite et pour la société en général, parce que quand on est plus équilibré et qu'on se sent mieux, ben, on travaille mieux, on vit mieux, on est plus sympa. Tout est... Ouais, je pense que... Donc je pense qu'il y a une ouverture, il y a une grande transformation par rapport à ces choses.
Fabrice Dini, une des choses que vous avez apprises en Inde, c'est le concept d'éducation intégrale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste ce concept?
Oui, alors tout à fait, si on résume. Donc je vais te finir un livre là-dessus qui va bientôt sortir, dont j'ai d'ailleurs eu le privilège d'avoir la préface de Mathieu Ricard qui vient d'être écrite pour le livre. Donc, en quelques mots, l'éducation intégrale, donc c'est un système ouvert, ouvert à tout ce qui se fait encore actuellement. Mais la base, c'est que chacun a un corps, donc il faut apprendre à s'occuper de son corps. Donc, comment se reposer, faire du sport tous les jours, ou des activités physique, en fait, tout ce qui est en rapport avec le corps. Après, il faut aussi s'occuper de la vie émotionnelle. Donc, on est aussi un être émotionnel avec toutes sortes d'émotions qui nous traversent et il faut apprendre à les accueillir, à se dompter et puis à pouvoir communiquer, tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant en Occident l'éducation émotionnelle. Et puis, après, on peut dire l'éducation mentale, où là, peut-être une des différences avec comme nous, on le conçoit, c'est que plutôt que, par exemple, d'apprendre plein de choses par cœur pendant de nombreuses années, on va d'abord entraîner la mémorisation, on va d'abord entraîner les facultés mentales, mémorisation, observation, concentration, imagination. Donc, on va plutôt mettre le focus sur l'entraînement à la faculté, à travers des sujets, plutôt que. D'abord, les sujets, c'est plutôt mis en avant l'aspect de développer la faculté intérieure. Et après, il y a aussi l'idée que chacun de nous est unique. Donc, il faut cultiver ce qui fait de nous un être unique. Donc après, c'est clair qu'il y a, on peut dire quelque part, entre guillemets, il y a quelqu'un à l'intérieur du corps ou de ses émotions et de ses pensées. Il y a quelqu'un qui est là, il y a une présence. Donc c'est aussi une éducation qui veut donner un peu d'espace à cette présence pour qu'elle puisse... respirer librement en fait. Donc l'idée après c'est que tout soit aligné avec cette présence, que toutes nos actions, nos émotions, nos qualités, toutes nos pensées soient de plus en plus dirigées vers ce qui est vrai, profondément vrai pour nous-mêmes en fait, pour chacun.
J'espère que cette petite escapade au pays des Maharajas vous a convenu. J'adresse mes plus vifs remerciements à Fabrice Dini pour cette interview réalisée en janvier 2016. Et à tous nos auditeurs, merci de votre écoute attentive. À bientôt, j'espère.